Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène sur un autre chemin de poèmes, de chansons et aussi avec une histoire. L'homme. Celui qui ne peut pas chanter rêve-t-il de la liberté? La bouche est faite pour se taire, et les yeux pour fixer la terre. Les genoux sont faits pour plier, et les bras pour être liés. C'est la loi, du moins, et la règle. Pour le lièvre, sinon pour l'aigle. C'est extrait du Nouveau Crève-Cœur, c'est un poème d'Aragon. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où. Je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux. La veille nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne. Le printemps est ici, mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seul au logis. Mon mari est parti, avec lui tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute, tout ce que nous savons. C'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon. Des tambours sont venus nous jouer une aubade, j'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade, moi je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume, il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune et se sera nippé. Les fleurs dans son jardin recommencent à point, j'y ai mis des iris. Il le désherbera en venant me rejoindre. Lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends et plus le temps me dure et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Et Léonore s'est faite une robe neuve et noire et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour revienne, je vais près de l'étang. Je reste près du bord, je joue et me promène. Je parle à mon enfant. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans. Mm-hmm. Cette histoire-là s'appelle Fait divers. On peut l'écrire de plusieurs façons. Le pilier qui la rend folle depuis des semaines lui paraît une aubaine. Il n'est pas très large, mais il l'a obligée à en faire le tour des centaines de fois par jour. Aujourd'hui, elle peut se dissimuler derrière lui pour mieux observer. Mission secrète dont elle s'est investie. Elle, Mélanie, la dernière embauchée, et encore, pour un contrat à durée déterminée. Pendant la dernière réunion d'équipe, elle a été obligée d'en parler. Ce n'est pas rien. Tous les matins, depuis une semaine, toutes les couvertures du même titre sont arrachées. Les exemplaires replacés dans les rayons subissent systématiquement le même sort. Le titre du livre Victime ? La mère. ME, accent grave, RE. Sur la première de couverture, une photo un peu floue, genre milieu du XXe siècle. Un homme portant un imperméable long et un chapeau mou, tenant dans ses bras bien serrés, le visage tendu vers lui, une jeune femme dont on ne voit que les jambes fines et longues, longues. Elle est sur la pointe des pieds. Il est nettement plus grand qu'elle. Le livre se vend bien, grâce sûrement au bouche à oreille, car l'auteur est quasiment inconnu. C'est pourtant une histoire classique, un homme, deux femmes. Mais une écriture incroyablement précise et simple à la fois. On est touché, forcément. Ah ! Une femme s'approche du rayon. Peut-être que c'est l'arracheuse de livres. Si c'est le cas, elle va être étonnée. La décision du directeur a été rapide. Il faut recouvrir de plastique adhésif transparent tous les exemplaires de ce livre avant de les mettre en rayon. Facile à dire, on voit que ce n'est pas lui qui fait le boulot. La femme s'approche de la pile, fait mine de feuilleter, se met à trembler, à pleurer. Elle vérifie à une vitesse incroyable que tous les livres sont recouverts de l'insupportable film protecteur, se force à fuir sans courir, se heurte à un pull gris. Mélanie a quitté son pilier. Ça va aller, calmez-vous. De toute façon, ce qu'on peut dire dans ces cas-là, c'est forcément n'importe quoi. Le temps de prévenir Élodie et elle se retrouve avec une femme en larmes qu'elle entraîne dans un coin de la galerie marchande. Quand les sanglots s'apaisent un peu, elle propose « On prend un café ?» Pas de refus explicite. Elle s'installe tout au fond de la buvette dans un petit recoin qui leur offre un peu de discrétion. Et Mélanie, un peu ébahie, écoute l'histoire d'une inconnue qui a presque l'âge d'être sa mère. Un peu emmêlée et octant, elle a droit au portrait de famille. Le père d'abord, Édouard. Homme d'affaires, grande famille, bel homme, un peu efféminé, ou plutôt un côté sensible et poète qui ajoutait à son charme. Il assurait à peine son boulot. Ses frères ne le voyaient passer qu'épisodiquement dans les bureaux de la société familiale de cartonnage et d'imprimerie. Avec ses lubies, il les avait d'ailleurs plusieurs fois poussés au bord de la banqueroute. Il avait été l'un des premiers à construire un aéroplane pour essayer de traverser la Manche, mais n'était jamais parvenu à décoller de plus d'un mètre au-dessus du sol. Il pilotait aussi des voitures de course qui lui coûtaient une fortune. La mère, Henriette, ni belle ni laide, discrète. La fille aînée d'un notable, une jeune fille comme il faut, devenue une femme comme il faut, qui savait faire comme si, surtout ne pas faire de vagues. Même quand elle avait mal, même pas mal. Elle savait que son mari vérifiait fréquemment son charme auprès de jeunes femmes admiratives et séduites aussi par son compte en banque. La tante Brigitte, la petite sœur d'Henriette. Même toute petite, elle utilisait déjà son charme. Personne n'y résistait. Petite bouclette blonde et grands yeux bleus. Sourire quand il fallait. Pleurs quand le sourire ne marchait pas. Une caricature. Elle pouvait faire en douce les plus grosses bêtises, elle n'était jamais punie. Jeune fille, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Drôle d'expression d'ailleurs, dans cette famille où personne n'en rajoutait sur la religion. Et puis les filles d'Édouard et Henriette. Nicole, l'aînée, c'est l'arracheuse de livres. La fille sérieuse, qui se sent toujours responsable de tout, investie de toutes sortes de missions de sauvetage, même avec les animaux. Elle a vécu quelques années avec un certain Alexis. En fait, c'était plutôt lui qui vivait avec elle, à ses crochets. Il n'y a pas très longtemps qu'elle a enfin réussi à le larguer, son pauvre artiste incompris, avec sa cohorte de copains en attente de renommée. finit enfin les soirées interminables où il se persuadait de leur talent à coups de bière et de vodka. Elle avait craqué quand elle s'était rendue compte qu'ils avaient passé la vitesse supérieure utilisant d'autres soutiens beaucoup moins licites. Et Jeanne, la plus jeune, écrivain, l'auteur du livre maudit, sûre d'elle, coquine, un peu délurée même. Elle n'est pas encore très connue, mais commence à se faire des relations dans le milieu littéraire parisien. Elle est depuis plus de 18 mois avec le même compagnon, ce qui est un record absolu. Donc, un soir d'hiver, entre chien et loup, à la fin d'une de ces journées où l'on se demande si le soleil s'est levé, elle les avait vus, Henriette. Ils ne se cachaient même pas. Sur le pont, Édouard, son mari, et Brigitte, sa sœur, s'embrassaient sans remords devant la ville entière. Elle ne dit rien. Elle tomba juste malade et mit fin à ses jours quelques mois plus tard. Mettre fin à ses jours, c'est une façon terriblement pudique de raconter une horreur. À ses filles, on avait dit qu'elle était morte d'une soudaine maladie de cœur. Ben voyons, quand même, il fallait oser. Quand le père était mort l'été dernier, au moment de vider la maison, Jeanne avait trouvé le journal de leur mère. Elle en avait fait un roman. Trahison. Pourtant, le jour où elle avait emporté le cahier, elle avait promis de n'en jamais rien dire, de ne pas utiliser cette histoire qui était la leur, mais ne leur appartenait pas. Salope. Impossible pour Nicole de voir étaler partout la vie, la honte et la souffrance de leur mère. Elle, Nicole, elle chante. Des chansons à texte, disent les critiques dans leurs feuilles de choux. Jamais elle ne se serait permis. Jeanne lui soutient que si leur mère avait voulu jusqu'au bout cacher cette histoire, elle aurait détruit son journal. N'importe quoi, enfin, peut-être. Non, sûrement pas. Elle ne sait plus, Nicole. Dans sa tête, c'est comme si leur mère allait se foutre en l'air une deuxième fois en voyant son histoire exposée dans toutes les librairies. Alors, tous les matins, elle fait le tour de la ville, investie d'une mission presque sacrée, arracher cette satanée photo et rendre les livres de sa sœur invendables. Silence. Plus rien à dire. La dame s'est levée. Mélanie ne l'a plus jamais revue. Désormais, la mère se vend bien. Plus de pages arrachées. 2 ans plus tard, Mélanie zappe. Fred n'est pas encore rentré de sa répétition. Grosse journée au boulot. Elle a eu juste le courage de jeter sur un plateau un reste de salade, une tartine et du fromage de chèvre, et de venir se vautrer sur le canapé. Variété. Elle allait changer de chaîne quand elle la voit sur l'écran là, devant elle. C'est elle, la dame des bouquins. L'arracheuse de livres du temps où elle travaillait au rayon littérature française de la Cigale. Ce qui frappe d'abord, c'est le changement de look. Mais Mélanie reconnaît son regard, sa silhouette, un reste de crispation dans ses mains, et surtout sa voix. Et elle chante. Pas étonnant, il me semble bien que c'est son métier, se dit Mélanie. Mais là, elle chante une chanson décalée, hors mode, hors style, où une toute jeune femme décide d'en finir avec la vie, où il est question de trahison, de brouillard et d'hiver. Eh ben, elle a réussi à la faire, sa chanson, pense Mélanie tout haut. Quand Fred, qui vient de rentrer, s'étonne de l'entendre parler toute seule et lui demande des explications, elle lui raconte, un peu émue, l'histoire de la dame qui chante une drôle de chanson, pas drôle du tout. C'est une histoire écrite par Anna Magdalena. Voilà, la chanson que j'ai chantée tout à l'heure, « Mon mari est parti », est une chanson d'Anne Sylvestre. À très bientôt pour d'autres chemins.